La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Les 10 moments qui ont contribué à façonner les États-Unis. Par Étienne Augry, professeur agrégé d'histoire. Parmi les pays déjà traités dans cette série de l'éléphant, les États-Unis se distinguent par leur jeune âge comparé à la Grande-Bretagne ou à la France. Aux États-Unis, le sentiment d'appartenance nationale se construit d'abord au XVIIIe siècle, sur la côte Est, autour d'un projet politique, mais aussi par rapport à un autre perçu de manière plus ou moins hostile. Cet autre est tour à tour l'Indien, le Français, l'Espagnol ou encore le Britannique. Par conséquent, le projet national est l'œuvre d'un groupe dominant, les Blancs anglo-saxons protestants, qui imposent sa vision aux autres groupes, même si la diversité des cultures, des langues et des religions oblige très tôt les États-Uniens à forger des compromis. La tension entre projet national et écriture de l'histoire du pays donne donc lieu, sans doute plus qu'ailleurs, à des versions très différentes. Naturellement, l'histoire telle qu'elle est racontée emprunte largement à un roman national écrit par le groupe dominant qui consacre les pères pèlerins du XVIIe siècle, puis les pères fondateurs du XVIIIe. Les groupes opprimés tels que les Indiens ou les Afro-Américains ont toujours entretenu, en particulier sous forme orale, voire chantée, pensons aux Negro Spirituals, des récits alternatifs qui sont davantage pris en compte par l'historiographie d'aujourd'hui.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
L'historien Gary Gersol, dans l'entretien qu'il nous a accordé, nous donne quelques clés pour mieux appréhender cette tension. Le premier événement de cet article aurait ainsi pu être l'arrivée des Amérindiens sur le continent depuis l'Asie. Cependant, cette arrivée fait encore débat quant à sa datation, plus ancienne que l'an 10 000 avant notre ère, et à sa géographie, par le détroit de Bering ou par le Pacifique. L'archéologie, la linguistique ou la génétique et la tradition indienne ne sont pas toujours en accord. Nul doute cependant que cette venue a précédé celle des Européens qui, après les éclaireurs vikings du Xe siècle, découvrent ce qu'ils vont peu à peu envisager comme un nouveau monde et non comme une partie de l'Asie. C'est bien entendu cette erreur de départ qui est à l'origine du terme « indien » utilisé par Christophe Colomb.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Parmi les questions qui traversent les moments clés sélectionnés, une autre tension importante, celle de la place des entités constituantes du territoire dans un ensemble aussi vaste. Les crises et les guerres, en particulier celles du XXe siècle, qui s'inscrivent en filigrane dans les choix que nous avons faits, ont accouché d'un compromis. Celui-ci a permis l'émergence et l'affirmation d'un État fédéral dont les compétences ont évolué pour s'imposer dans de nombreux domaines aux États fédérés, non sans résistance. Quant à la place de la religion, autre élément clé transversal, la diversité a entraîné l'absence de religion officielle et faciliter la reconnaissance de la liberté de culte. Cependant, une très forte religiosité imprègne la société et la vie publique du pays, sans pour autant être rattachée à une dénomination précise. Cette particularité est souvent mal comprise, en particulier en France.
L'éléphant et Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Remerciements à Jennifer Howell, à Romain Huret et aux membres de l'American Historical Association pour leurs conseils. 1607-1620. Dans le roman national états-unien, les installations de 1607 et de 1620 sont interprétées au prisme du mythe d'une terre disponible donnée par Dieu pour y bâtir la Nouvelle Jérusalem et y goûter la liberté. En Virginie, nommée ainsi en l'honneur de la virginité supposée de la reine Élisabeth Ière, des Anglais fondent Jamestown en 1607, à 250 km au sud de la capitale actuelle, Richmond. Les débuts sont difficiles. Plus de la moitié de la centaine de colons meurent dès la première année. Il faut de nombreux convois pour que le nombre d'habitants augmente lentement. L'aide des Indiens s'avère indispensable. Des incertitudes demeurent sur les faits et les personnages. Ainsi du capitaine John Smith, emprisonné pour rébellion sur le bateau, mais que la compagnie de Virginie avait désigné par avance comme gouverneur, ou de la fameuse Pocahontas, fille du chef Powhatan, qui a joué un rôle d'intermédiaire avant d'être enlevée, de se convertir au christianisme, d'épouser un colon et de mourir en Angleterre.
Le savoir s'écoute sur Sirius Audio.
Après une alternance de guerre et de trêve avec les Indiens, les colons assurent leur domination sur la terre, dont ils ont besoin pour faire pousser du tabac, très demandé en Angleterre. Ce sont surtout des hommes pauvres engagés pour quelques années par de grands propriétaires. Au cours du XVIIe siècle, des esclaves déportés d'Afrique les remplacent peu à peu. La situation est différente pour les passagers du Mayflower, qui s'établissent au nord, en Nouvelle-Angleterre, en 1620. Outre des aventuriers, le navire compte un groupe de puritains, par la suite nommés Pères Pèlerins, des protestants radicaux partisans d'une pratique épurée de la religion et persécutés par l'Église officielle et la couronne. Les difficultés sont également nombreuses, et l'aide des Indiens est là aussi essentielle à leur survie. En établissant une alliance avec le chef Massasoit, les colons de Plymouth parviennent à favoriser les conditions de leur enracinement, célébré en 1621, lors du premier et largement mythifié Thanksgiving.
L'éléphant et Sirius Audio. Vous allez voir ce que vous allez entendre.
C'est en 1630 que débute la grande migration des puritains dans la baie du Massachusetts. Économiquement, les colonies de Nouvelle-Angleterre diversifient leurs ressources et leurs exportations, contrairement à la Virginie. Sur le plan religieux, si les puritains aspirent à vivre entre eux et ne pratiquent pas la tolérance, les colonies septentrionales abritent rapidement de nombreuses autres communautés, Rhode Island et Pennsylvanie. Dans la plupart des colonies, la diversité aboutit donc à une cohabitation plus ou moins ouverte. Sur le plan démographique, dans toutes les colonies anglaises, le XVIIe siècle voit les courbes des populations indiennes et européennes se croiser, guerres et épidémies frappant plus durement les premières. Enfin, les esclaves sont plus nombreux en Virginie, près de 13% de la population en 1700.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
1774-1783. Pas d'imposition sans représentation. La naissance des États-Unis en tant que pays indépendant passe par une guerre contre la mère patrie, laquelle n'accepte pas que sa fille la plus brillante décide pour elle-même. À l'orée du XVIIIe siècle, ce nouveau monde, en évolution constante, est constitué de groupes souvent antagonistes, de populations issues d'au moins trois continents, qui n'ont pas toujours choisi leur sort. De ce mélange complexe émerge peu à peu une identité spécifique. La distance entre la Grande-Bretagne et ses colonies américaines entraîne rapidement, malgré le flux continu de personnes, de biens et d'idées, un décalage grandissant dans les modes de vie et de pensée. Si les colons américains aspirent à bénéficier des mêmes droits que leurs compatriotes sur le sol britannique, ils ne souhaitent pas se voir imposer des devoirs auxquels ils n'auraient pas consenti directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants. Or, il se trouve que les colonies ne sont pas représentées au Parlement de Westminster. Leur opposition peut se résumer à cette formule du révolutionnaire Patrick Henry : « No taxation without representation ». Pas d'imposition sans représentation. Dans le même temps, chacune des 13 colonies règle une grande partie de ses affaires avec une certaine liberté.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
À partir de 1763, la victoire contre les Français, qui contrôlaient une grande partie de l'Amérique du Nord, prive les autorités britanniques et les colons américains d'un ennemi commun. Le gouvernement du roi George III profite de l'occasion pour créer à l'ouest des Appalaches un territoire réservé aux Indiens. Les populations européennes ne sont en effet que quelques milliers dans cet espace, tandis que les 13 colonies comptent déjà plus d'1,5 million d'habitants. Par ailleurs, Londres souhaite faire participer les colonies au financement de l'effort de guerre accompli. Les tensions grandissent. La Boston Tea Party de 1773 montre bien la détermination de quelques Bostoniens qui, déguisés en Indiens, jettent par-dessus bord des caisses de thé arrivées par bateau pour protester contre une taxe. La rupture est consommée. Les premiers combats ont lieu en 1775. Le pamphlet de Thomas Paine, Le Sens commun, donne chair, cohérence et popularité aux arguments des insurgés. Les colonies se réunissent en congrès à Philadelphie et proclament leur indépendance le 4 juillet 1776, jour qui deviendra celui de la fête nationale. La déclaration d'indépendance, rédigée par Thomas Jefferson, en même temps qu'elle critique le roi d'Angleterre, a une portée universelle dans l'affirmation du principe de liberté. Les colonies se proclament États-Unis d'Amérique et bâtissent une armée capable de rivaliser avec la plus puissante de l'époque. Elle est dirigée par George Washington, un planteur virginien. L'aide des Français, notamment du marquis de Lafayette, s'avère décisive. Et le travail diplomatique de Benjamin Franklin en France se révèle d'une importance capitale. La victoire militaire des Américains est acquise après la reddition britannique de Yorktown en 1781. Le traité de Paris de 1783 reconnaît l'indépendance des États-Unis.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
1787-1791. Nous, le peuple. La guerre d'indépendance débouche logiquement sur une révolution. Les États-Unis vont mettre en place un régime politique nouveau, inédit pour un pays de cette dimension, et formé grâce aux idées les plus avancées de leur temps. Ceux que l'historiographie surnommera rapidement les pères fondateurs tentent d'établir les institutions du nouvel État. Sous cette appellation commune, les personnalités et les idées sont parfois très différentes. Les débats sont nourris et vifs, en grande partie du fait de la liberté d'opinion et de presse qui règne alors en Amérique. La diversité des colonies, entre elles et en leur sein, pose la question de l'équilibre entre la nécessaire unité que les fédéralistes souhaitent renforcer et le respect des droits des différentes entités. Chacune des colonies dispose en effet d'une grande autonomie dont témoigne la variété des institutions qui les gouvernent. Cette difficulté n'est d'ailleurs pas tue, puisque la devise du pays invite à la dépasser. E pluribus unum. De plusieurs, un. Les principes généraux sont déjà fixés dans la Déclaration d'indépendance. La liberté, l'égalité entre les hommes et le nécessaire consentement des gouvernés. Reste à déterminer les modalités de l'organisation du pouvoir.
L'éléphant et Sirius Audio. Vous allez voir ce que vous allez entendre.
La Convention de Philadelphie aboutit en 1787 à une constitution qui entre en vigueur en 1790. Elle prévoit la création d'un État fédéral composé de 13 États au pouvoir important. Au niveau fédéral, le pouvoir législatif, mentionné en premier dans le texte, est confié à deux chambres, permettant l'une la représentation de la population, chambre des représentants, et l'autre celle des États, le Sénat. Le pouvoir exécutif est confié à un président élu pour 4 ans. Washington est naturellement le premier à remplir cette fonction. Enfin, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, dans la lignée des idées des Lumières, Montesquieu, implique la mise en place d'une cour suprême qui coiffe la branche judiciaire. Cette cour, dont les membres sont nommés à vie, gage de leur indépendance, est appelée à jouer un rôle fondamental dans l'interprétation de la Constitution. Aujourd'hui encore, certaines avancées majeures dans l'extension des libertés à l'ensemble de la population sont dues à ces décisions de la Cour suprême, autant qu'aux amendements apportés à la Constitution. Une déclaration des droits est ajoutée en 1791, qui vient compléter le texte de la Constitution en consacrant notamment la liberté religieuse et le droit de porter des armes. Une démocratie libérale est donc clairement établie. Mais certaines questions restent à régler. Le sort des populations indiennes et l'esclavage.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site Sirius.audio.